Donc nous serons ce soir dans Hébreux chapitre 13, les versets 4 à 6, et ce sera juste la continuation de ce que nous avions vu la semaine passée. Nous avons vu que, après avoir donné beaucoup d'avertissements, beaucoup d'exemples tirés de l'Ancien Testament et aussi de la vie de l'Assemblée ici, l'auteur aux Hébreux maintenant va terminer sa lettre avec une série d'exhortations pratiques, des choses à faire, à mettre en œuvre dans la vie de l'Assemblée. Et j'étais en train de dire cette semaine au sujet donc de ces exhortations, et un des auteurs a dit on compte 12, on compte 12 exhortations en quelques versets, donc 12 choses à faire différentes. On va pas tout regarder ce soir, mais simplement deux enseignements qui sont ici sur la pureté sexuelle dans l'Église et aussi sur l'amour de l'argent et le rapport à l'argent. Donc Hébreux chapitre 13, les versets 4 à 6. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Dieu jugera ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle et à l'adultère. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car il a dit lui-même, « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas peur. » Que peut me faire un être humain. Si la semaine passée, nous avons vu deux expressions de l'amour fraternel, comment on montre l'amour dans l'Assemblée par l'hospitalité et aussi le soin envers ceux qui sont en prison, ici, les choses à éviter dans l'Église et dans la vie chrétienne qui peuvent détruire notre relation avec Dieu. Et nous avons donc ces deux péchés à fuir, ces deux avertissements contre ces menaces à la foi. Et il commence au verset 4 en avertissant contre l'adultère et l'impureté sexuelle. Et il faut savoir que, un peu comme aujourd'hui, dans le monde gréco-romain de l'époque du Nouveau Testament, il y avait beaucoup d'attaques contre le mariage dans le monde gréco-romain. Bien sûr, on ne peut pas généraliser, mais il y avait des auteurs anciens de l'époque qui disaient que c'était déraisonnable d'imaginer qu'on pouvait rester fidèle à son épouse dans le mariage, et donc qui recommandait au mari d'aller trouver des maîtresses pour pouvoir s'épanouir, être épanoui sexuellement, avoir quelqu'un avec qui il parlait. Et donc ils avaient leur épouse pour avoir les enfants, pour s'occuper de la maison, faire toute la gestion là, et leur maîtresse pour avoir l'épanouissement émotionnel qui était là. Et bien sûr, là, c'était surtout des gens qui s'adressaient aux gens riches et aisés de la culture, mais il y avait un enseignement qui était accepté par certains et que les gens osaient dire à haute voix, qui disait la pureté sexuelle dans le mariage, la fidélité à son épouse, c'est pas quelque chose à rechercher, il faut même rechercher l'inverse, comme ça vous vous sentirez mieux. De l'autre côté, il y avait des auteurs qui étaient des ascètes, on pourrait dire, qui disaient que toute expression sexuelle, même dans le cadre du mariage, c'était quelque chose qui détruisait notre être spirituel. Et eux, ils disaient, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'abstenir des relations, même dans le cadre du mariage, parce que si on est en train de s'abstenir, on n'est plus spirituel, on n'est plus proche de Dieu. Et donc, ces attaques, on va dire, qu'on trouvait dans la culture et dans la pensée de l'Antiquité, quelles qu'elles soient, avaient un effet négatif sur la vie du couple et sur la vision du mariage. Et ces deux manières de voir le mariage n'honoraient pas le mariage, comme l'auteur le dit ici. Et on sait, à partir d'autres textes du Nouveau Testament, que ces pensées pouvaient s'infiltrer dans l'Église. On est en train de faire une lecture commentée d'un Corinthiens avant le culte, et nous avons vu déjà qu'il y avait l'enseignement qui s'était infiltré dans l'Église, qui disait, par exemple, qu'on ne devait pas coucher ensemble dans le cadre du mariage. Et Paul doit rappeler aux chrétiens mariés, non, vous allez vous honorer le mariage en ayant des relations, ne vous privons pas de relations. Ça, c'est 1 Corinthiens 7. Et à un autre moment, et ça devrait nous surprendre, mais dans 1 Corinthiens 6, Paul dit, il faut pas aller coucher avec les prostituées. Il a dit, parce qu'il ressentait le besoin de rappeler ça à l'Église. Et donc, ça nous dit quelque chose sur la culture dans laquelle les chrétiens vivaient, et en particulier les chrétiens qui ne venaient pas de milieux juifs, qui avaient une moralité tout à fait différente, ils avaient besoin qu'on leur rappelle assez régulièrement qu'ils devaient vivre dans la pureté sexuelle, dans la pureté qui honore le mariage. Bien sûr, dans le texte ici, nous allons voir le problème, ça semble pas, pour cette église, la menace, ça semble pas qu'il y avait des gens qui s'abstinaient trop, mais bien ce danger de l'adultère et de l'immoralité. Le terme adultère qui est utilisé ici, ça veut simplement dire être infidèle à son époux ou avec son épouse. Au mariage, le couple s'est fait des engagements, s'est promis fidélité et exclusivité sexuelle. Et là, il y avait le danger que l'une ou l'autre dans le couple s'éloigne. Le terme qui est utilisé pour l'inconduite sexuelle, c'est la traduction que moi j'ai, est aussi traduit dans certaines Bibles, l'immoralité sexuelle ou encore la débauche. Et pour faire simple, cela décrit toutes les relations et liaisons sexuelles en dehors du mariage. Et donc, l'enseignement chrétien ici est très simple. Et comme mon ami Max Donner dit, la morale sexuelle selon Dieu est très simple. C'est le sexe, c'est pour le mariage. C'est tout. C'est nous, en tant qu'êtres humains, qui avons tendance à compliquer la chose. Je crois que on va pas s'éterniser sur ce passage, mais j'aimerais qu'on réfléchisse à quelques idées. Un peu comme à l'époque du Nouveau Testament, cette manière de voir l'intimité sexuelle n'est pas vraiment acceptée en dehors de l'Église et peut-être d'autres religions comme l'islam. On méprise même parfois ceux qui ont cette vision du mariage et ont cette vision des relations sexuelles. Je lisais un entretien, c'était un interview pour une psychologue pour adolescents qui était spécialisée dans l'expression sexuelle. Et ils lui ont demandé, mais quelles sont des choses qui vous inquiètent pour les jeunes? Et elle a dit, une des choses qui m'inquiète, c'est que des jeunes de 16, 17 ans ont un sentiment de honte s'ils n'ont pas d'expérience sexuelle. Et son point n'était pas que tous les ados couchent ensemble, c'était pas l'idée, mais que dans la culture, chez les ados, qui l'inquiétait elle, qui n'était pas pourtant chrétienne, c'était vu comme une honte d'être pure sexuellement, de ne pas avoir eu d'expérience et d'attendre le mariage. Et nous allons être différents si nous regardons les relations sexuelles, si nous regardons le mariage avec une vision qui vient de Dieu plutôt que celle du monde. Et nous n'allons pas forcément être compris par les autres avec cette vision. Mais nous avons la responsabilité, par notre obéissance et notre fidélité à Dieu, de rendre témoignage à ce que Dieu présente. À mon avis, les gens ne peuvent pas comprendre cette manière de vivre avec une vision du monde où Dieu n'est pas le créateur du couple, du mariage et du sexe. Si on enlève Dieu de la question, on ne peut pas vraiment faire sens de cette idée de l'exclusivité et de la fidélité pour le mariage. Mais avec Dieu qui fait partie de notre vision du monde, il y a une raison de faire cela. Et aussi, une deuxième chose que nous pouvons dire, c'est que la recherche de pureté sexuelle, c'est le résultat et le fruit d'une obéissance à Dieu et de la confiance que Dieu veut notre bien. La confiance qu'en tant que créateur, Dieu sait ce qui est bien et ce qui est mal pour nous. Et il nous donne ses commandements pour notre bien. Je dis cela parce qu'un des grands dangers du péché sexuel est qu'il est motivé principalement par les sentiments, n'est-ce pas? Par nos désirs mauvais. Et nos sentiments peuvent nous tromper. Je me souviens que le doyen de ma faculté de théologie a raconté une histoire vraie, disons une expérience qu'il a eue. Il était aussi ancien dans son assemblée, une assemblée très grande, je crois qu'ils étaient plus de 2000 membres qui étaient là. Donc ils avaient de nombreux anciens et ils passaient beaucoup de temps à rencontrer des membres de l'église pour les conseiller, pour les aider spirituellement. Et il a dit, un jour, il y a un homme et une femme de l'église qui sont venus et ils avaient un problème parce qu'ils étaient mariés, ils étaient en train de coucher ensemble, mais ils n'étaient pas mariés l'un à l'autre. Et donc, ils ont commencé à discuter, ils ont parlé de ça. Il a dit, mais est-ce que vous avez un problème de réconcilier votre foi en Dieu avec ce comportement? Donc, ces deux chrétiens qui étaient en train de tromper leur époux et leur épouse au sein même de l'Église. Et ils lui ont répondu, donc c'est ce qu'il m'a dit, ils ont dit, nous nous aimons tellement l'un l'autre, nous avons tellement d'affection, c'est tellement fort que ça doit venir de Dieu. Et donc, oui, on peut concilier avec notre foi parce que cet amour est si beau, il doit venir de Dieu. Mais la réalité, bien entendu, et pour nous c'est facile de le dire, mais qu'ils ne suivaient pas l'Esprit de Dieu, ils suivaient leurs sentiments, qui était pourtant très fort. Mais cet acte n'était pas quelque chose de beau ou qui venait de Dieu, mais quelque chose de destructeur qui était pour eux, au niveau de leur relation avec Dieu, qui était destructeur dans leur relation avec la famille et pour l'assemblée entière. Et donc, la confiance en Dieu est importante parce qu'on, quand on est tenté, quand on est sur le terrain, entre guillemets, c'est facile de dire, je dois faire ça, je dois pas faire ça. Mais au niveau émotionnel, c'est pas forcément la même chose. Et ça devient une épreuve de confiance en Dieu. De dire, mes sentiments me poussent dans une direction, mes envies me disent de me comporter d'une certaine manière. Est-ce que je fais confiance que Dieu désire mon bien par ses œuvres, par ses commandements? Un autre désir n'est pas de tordre notre raisonnement pour pouvoir conformer notre comportement à ce que nous voulons, mais bien de nous soumettre à la volonté de Dieu. Et cela nous rappelle aussi tout simplement que la fidélité dans le mariage, c'est une question d'église aussi. C'est pas juste une question individuelle. La pureté sexuelle pour les jeunes et ceux qui ne sont pas mariés, c'est une question d'église. C'est pas juste une question individuelle. Le péché dans ces domaines peut détruire l'église en créant des divisions, en menant des relations saines à être détruites dans l'assemblée. Et donc, d'avoir une vision du sexe et des relations qui vient de Dieu protège l'église aussi. Nous regardons simplement à la fin du verset 4 un mot sur les conséquences. L'auteur dit que Dieu jugera ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle et à l'adultère. Et ici, on parle donc de s'attirer le jugement de Dieu. C'est-à-dire ici, c'est déchoir du salut. Dans l'Épître aux Hébreux, l'autre moment où on parle du jugement de Dieu, vous vous en souvenez, c'est dans Hébreux 10, les versets 26 à 31, qui est ce tableau assez terrifiant du jugement de Dieu, définitif, contre ceux qui persévèrent dans le péché, par esprit de rébellion à Dieu. Et c'est ce même langage ici qui revient dans le verset. Et donc, il y a un avertissement très, très, très sérieux que ceux qui persévèrent dans le péché, tout en se disant enfants de Dieu, ne sont pas à l'abri du jugement de Dieu. On ne peut pas simplement dire « je suis chrétien » et puis faire ce qu'on veut parce que Dieu a un contrat avec nous où il est obligé de nous sauver. Et ça, ce n'est pas juste le message de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Paul le dit, Jean le dit, Pierre le dit, mais prenons juste le passage d'Éphésiens 5, les versets 5 et 6. Éphésiens 5, versets 5 et 6. « Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Nous devons reconnaître donc que la grâce de Dieu et le pardon de Dieu en Jésus-Christ ne donnent jamais à qui que ce soit à qui on demande dans le Nouveau Testament, mais la grâce en Jésus-Christ ne donne jamais permission de se donner au péché ou de profiter du péché. Mais nous devons comprendre la gravité de l'avertissement qui est donné ici. Mais en même temps avec l'avertissement, j'aimerais donner quand même le rappel. Si nous péchons sexuellement, ce soit l'adultère ou l'impureté ou d'autres choses, la possibilité d'être pardonné existe toujours, bien entendu. L'auteur n'est pas en train de dire « bon, vous commettez de l'adultère, c'est fini, vous allez en enfer, il n'y a plus de possibilité d'être sauvé ». Ce n'est pas là son message. Il y a toujours la possibilité de se repentir, de revenir à Dieu pour le pardon. Mais il y a besoin de cette repentance. Ce qui est le plus grand danger, c'est une vie qui est donnée au péché et qui imagine qu'il n'a pas de conséquences pour cela. Avant de regarder l'amour de l'argent que Paul aussi lie à l'impureté, ici dans Éphésiens chapitre 5, juste une petite remarque, on ne méprise pas le mariage dans le Nouveau Testament. Il dit que le mariage soit honoré, le mot veut dire qu'on lui donne une grande valeur de tous. Et la Bible n'a pas du tout une vision négative du mariage. Ça il faut le voir. Être marié n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. Et le Nouveau Testament nous enseigne d'honorer et d'accorder de la valeur au mariage. Si on vient d'une tradition catholique, on aura tendance à dire, bon, ceux qui dirigent l'Église, ceux qui enseignent et d'autres, ils ne doivent pas être mariés. Parfois, on n'est pas vraiment sûr pourquoi qu'il est là, mais parfois, il y a cette vision que le mariage, c'est un peu, c'est bien, mais c'est moins spirituel que le célibat, c'est moins bien. Et on ne trouve pas cette idée dans le Nouveau Testament. Il y a des gens qui sont appelés à l'un ou à l'autre, et dans les deux cas, on l'utilise pour Dieu. Mais c'est une belle chose qui est honorée par Dieu. Donc j'ai assez parlé sur cette question. Versets 5 et 6, il va parler de l'amour de l'argent. Je relis. « Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car, il a dit lui-même, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » L'encouragement là, qui pourrait nous surprendre peut-être, si on pense qu'il y a beaucoup de chrétiens pauvres dans l'Église, mais il dit de ne pas agir par amour de l'argent. Et pour ceux qui sont tentés par l'amour de l'argent, de prendre leur décision sur la base de qu'est-ce qui va me rapporter le plus, il donne deux réponses à l'amour de l'argent. Le premier, c'est le contentement. Et le deuxième, c'est de se confier en Dieu, de se confier dans le Seigneur. Bon, parlons un tout petit peu du contentement. Je ne sais pas si vous savez, Martina est bien au courant, mais j'aime acheter des choses. J'aime surtout acheter des choses d'occasion ou en action. Et donc, j'aime bien aller au centre social protestant parce qu'il y a toujours des prix très attractifs là-bas, les magasins de seconde main, les sites internet avec les réductions et tout. À un moment donné, j'ai dû commencer à mettre des limites sur le temps que je passais sur les sites web qui disaient les réductions parce que je commençais à vouloir des choses et avoir besoin de choses dont j'avais vraiment pas besoin. Et même si on économise 75 ou 90% sur l'article, d'accord, si on n'en a pas besoin, c'est une vision tordue de la réalité qui est là. J'ai parfois cette lutte et j'ai un besoin, la Bible l'enseigne, Dieu veut pour cela pour moi, que je sois satisfait de ce que j'ai. Hein, c'est ça le contentement, de dire ce que j'ai aujourd'hui devant moi est suffisant. Et de vivre par conséquent avec reconnaissance pour les biens que Dieu nous donne et de savoir que Dieu nous garde en sécurité. Et ce besoin est fondamental pour tout chrétien, de vivre dans le contentement. Cela ne veut pas dire que c'est impossible d'améliorer sa situation. On voit dans le Nouveau Testament le conseil donné aux esclaves. S'ils ont la possibilité d'être affranchis, qu'ils devraient le faire. Ils ne sont pas obligés de dire « bon, je suis esclave, je suis content d'être esclave, je vais rester esclave pour toujours ». Dieu peut ouvrir des portes pour améliorer la situation de vie. Mais la vision du monde du chrétien ne doit pas être centrée sur acquérir les choses qui rendra notre vie plus agréable, plus confortable ou même plus intéressante avec la technologie, par exemple. Paul conseille à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6, les versets 7 à 10, ceci. Il dit « Nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. » Sur notre lit de mort, nous n'avons rien amené avec nous de ce que nous avons amassé. Et notre dernière pensée ne sera probablement pas « je suis vraiment content d'avoir eu une bonne affaire sur la machine à laver ou ma voiture ou sur ma maison ». Ce n'est pas ces choses-là qui sont importantes. Bien sûr, nous vivons dans un monde matériel. Nous avons des besoins pour vivre, mais cela n'est pas l'essentiel pour nous. Quand Paul parle du contentement à Timothée, il dit, il faut regarder ce qu'ont fait ceux qui cherchent les biens matériels, qui vivent leur vie pour acquérir toujours plus. Ils ne sont jamais satisfaits. Et en fait, ils finissent par tomber dans un piège. Okay. C'est bien, on a le passage aussi. Pas de souci. Lorsqu'on vit pour toujours acquérir plus, on ne sera jamais satisfait. Et vous avez peut-être fait l'expérience, mais parfois on passe des mois et des mois à se dire « un jour je vais avoir cette chose, je suis en train d'économiser, de préparer ». On l'a, et puis un jour et demi plus tard, on est en train de penser à la prochaine chose. Et ça fait un peu rire, mais cela peut contrôler et définir notre vie. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Le non-contentement est un piège. Parce que quoi que ce soit qu'on reçoit, on voudra toujours un peu plus si nous n'apprenons pas à vivre dans le contentement. Et donc ça, c'est la première chose. Le contentement et la reconnaissance. De dire, j'ai ce qu'il me faut, Dieu a pourvu et merci à Dieu. Mais il donne un deuxième conseil et c'est donc de faire confiance dans le Seigneur. Et l'auteur au verset 6 cite le psaume 118, le verset 6. Et je vais juste lire le passage du psaume dans le contexte. Psaume 118, les versets 5 à 9. Où le psalmiste dit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a mis à l'aise. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. J'arrêterai mes regards sur ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier à l'homme. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier au noble. Et le thème de ce psaume, vous l'avez entendu, c'est pas juste l'argent, mais c'est de dire dans toutes les circonstances, je me confie, c'est-à-dire je mets ma confiance en Dieu.